Service public.
Service public.
Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien.
Sur différents sujets du quotidien.
Éducation, santé, justice et loi. Sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne.
Réuni sur une même enseigne.
Service public. C'est tout simplement notre métier.
C'est tout simplement notre métier.
Bonjour à vous, Sbah el Khair, bon début de semaine, il est tout juste 10h05. Nous sommes le dimanche 17 mai 2026, une nouvelle journée est une nouvelle opportunité de faire de merveilleuses choses. Alors belle journée à vous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez évidemment profité et surtout que vous avez été... applaudir notre chère équipe, voilà, c'est pour penser très fort à notre cher Sadir, hein, un fervent défenseur de l'USMA, voilà, félicitations pour le sacre. Et hier, ils ont fait la fête, hein, très tard, hein, d'ailleurs, dans la soirée à Alger, les klaxons et les slogans, voilà, en tout cas, bien mérité, et puis surtout en Égypte, voilà, les Amalek et les nôtres, ils ont montré qu'ils étaient capables. Alors ce matin, on s'intéresse à l'agriculture dans service public, le Sibsa Filaha, il va avoir lieu le 18 mai. C'est du 18 jusqu'au 21, c'est la 24e édition, il y aurait 850 exposants. Mais nous, on sera en compagnie de Monsieur Brahim Zitouni, qui est expert agroéconomiste, spécialiste en culture du palmier dattier, et Madame Yasmina Belhed, une agricultrice qui nous vient de Timimoun. Et nous allons parler de l'agriculture innovante et peut-être un mot sur le Sibsa. Voilà le programme, restez-nous fidèles, il y a notre cher Mohamed Toualbi qui passera cette semaine avec nous. Merci. Merci Mohamed. Et Sadiq à la console. Et Najib qui revient, on lui fait un petit coucou, qui est au streaming vidéo. Faïza et notre belle Nsrine. Non, elle n'est pas belle, elle est belle. Nsrine à la régie d'antenne et Badia Ahdad à votre service jusqu'à 11h. Vous pouvez participer, c'est le 021 48 15 15. On démarre et puis on revient. Itess Medies, très très belle pour démarrer, origine contrôlée.
مدياس انت المدياس هلك حزنا فلس انت المدياس انت المدياس انت المدياس فلس تسرو كلس بعد فلي يا ربي هزقل البحور روحي الوالي كبير بابور يبعد فلي يا ربي هزقل البحور ربي العالي حرم فلس عزيز فلي يا ربي ما يرق ملس ربي العالي حرم فلس عزيز فلي يا ربي ما يرق ملس انت سمدياس انت سمدياس انت سمدياس هلك حزنا فلس
مدياس انت اسمى دياس انت اسمى دياس بالله تسوق الناس مدان فرحان نتسادى وحيد يا ربي لكنين حسن إكواسنا العيد مدان فرحان نتسادى وحيد يا ربي لكنين حسن ربي ريتي بكثر تحوس سلحة سابرين إن شاء الله جو غالي وبواس ربي ريتي بكثر تحوس سلحة سابرين إن شاء الله جو غالي وبواس
انت اسمى دياس انت اسمى دياس
انت اسمى دياس غريب جو حزني وفلس انت اسمى دياس انت اسمى دياس انت اسمى دياس فلس تسوق الناس
مدربي راس رجول مكتوب أرسى ولا دوري مدربي راس رجول مكتوب أرسى ولا
دوري دينو روح شي سيزان أمل حارس انت استي عربي روح مغاد ناس روح شي سيزان أمر حارس إذا استيعاد بروح غد ناس
انت اسمى دياس انت اسمى دياس
انت اسمى دياس هلك حزنا وفلس انت اسمى دياس انت اسمى دياس انت اسمى دياس فلس تسوق ولاس
Service public.
Service public.
Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Service public.
C'est tout simplement notre métier.
Il est 10h13 minutes, nous démarrons notre première émission. Bonjour monsieur Brahim Zitouni, bonjour madame Yasmine Abelhadj, merci d'être en direct avec nous pour votre premier passage. Vous venez direct de la ville de Timimoun, vous faites depuis 20 ans, vous avez une ferme, une agricultrice et vous allez nous raconter un peu votre expérience. Mais juste avant, l'actualité du CIPSA et l'actualité, monsieur Zitouni, on parle beaucoup de modernisation de l'agriculture. Qu'est-ce que cette notion recouvre et quels sont les enjeux pour l'Algérie?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonjour madame, merci de votre invitation. Mm-hmm. Bonjour madame. Alors, qu'est-ce que la modernisation de l'agriculture? Voilà une question très vaste et, et difficile.
Oui.
La modernisation de l'agriculture, chère madame, ce n'est certainement pas la modernisation des techniques. La modernisation des techniques est une chose, la modernisation de l'agriculture est une autre chose. L'agriculture est une activité transversale, globale. Et avant tout, il faut la modernisation de la pensée. Je vais vous donner deux concepts, par exemple, qui polluent, à mon sens, l'agriculture, mais pas qu'en Algérie, à l'échelon mondial. La notion de superficie agricole utile. Et je m'interroge sur deux termes. Le terme superficie, surface, pardon, surface agricole utile.
Les
Je m'interroge sur deux termes. Le mot surface, faudrait-il faire de l'agriculture uniquement sur une surface plane, donc qui répond à un itinéraire technique mécanisé très précis? Et puis, utile. Y aurait-il donc des surfaces inutiles? Et donc, il faudrait interroger ce qu'est l'inutilité. Si l'inutilité est une agriculture qui est hors champ de ce qui se passe en Europe ou aux États-Unis, alors effectivement, nous excluons de nos capacités productives des écosystèmes qui sont par ailleurs productifs et qui ne répondent pas forcément à la définition de la surface agricole utile. Je préfère, pour mon compte, introduire un concept pour décoloniser la pensée agricole de superficie, et non pas surface, fonctionnelle écosystémique. C'est-à-dire qu'en réalité, nous cultivons des glucides, des protides, des graisses, nous des polyphénols. Nous produisons des matières premières, des macromolécules qui nous permettent de faire de l'alimentation. Et dès que nous rentrons dans ce concept de superficie des fonctionnalités écosystémiques, on réalise alors que les hauts plateaux,
le Sahara,
d'autres écosystèmes sont tout à fait utiles, mais ils sont utiles de manière écosystémique. C'est-à-dire qu'en réalité, on pourrait y cultiver des tas de choses qui nous permettraient d'aller vers des transformations de haute valeur ajoutée. Et donc, la première chose pour moderniser l'agriculture et répondre à votre
question,
c'est
la pensée, vous avez dit.
Décoloniser la pensée.
D'accord. Et la deuxième chose, parce que s'il y a un premier point, il y a un deuxième point.
Oui, absolument.
Oui.
On parle beaucoup d'agriculture sans mettre de priorité à ce qu'il faut faire. Dans un monde de contraintes, et en particulier de contraintes climatiques, mais pas que ces contraintes, il y a d'autres contraintes.
Enfin, le premier, c'est quand même climatique dans l'état du monde actuel, hein, monsieur Zitouni.
Oui, mais enfin, les contraintes géopolitiques ne sont pas trop mal non plus.
Oui.
Et donc, lorsque nous avons ce type de contraintes sur nous-mêmes, il faut s'interroger sur ce que nous devons faire en priorité. Et ce que nous devons faire en priorité, c'est protéger la robustesse de nos espèces végétales, animales, qui ont été sélectionnées pendant des milliers d'années par notre paysannerie. Lorsque je regarde, par exemple, le patrimoine génétique de nos moutons, par exemple, vous savez, pour la petite histoire, que le mérinos australien descend
de chez nous.
Bien sûr,
bien sûr, de l'Oulette, de l'Albiscra.
Pas que ça.
Oui.
Vous regardez le cheval barbe, regardez nos espèces caprines, regardez nos espèces bovines. L'ensemble de nos animaux domestiques sont des animaux très résilients. Certes, ils ne produisent pas autant que d'autres. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une marge de progression. Et la marge de progression, elle peut se réaliser par la génétique. Et là, nous rentrons...
Il faut la protéger, cette génétique.
Alors, il faut la protéger, entièrement d'accord, améliorer certains caractères. Par exemple, la prolificité, pour que nous ayons plus de descendance par génisse, par exemple, d'accord, mais en gardant le patrimoine génétique qui fait la caractéristique de nos animaux, c'est-à-dire des animaux résilients, des animaux qui sont capables de tenir la chaleur, etc. Donc, la bataille, elle n'est pas tant sur améliorer nos patrimoines génétiques, on peut les améliorer sur certains aspects, mais la bataille est surtout sur la prolificité et donc sur la quantité de la quantité, la l'augmentation quantitative de ce patrimoine génétique qui est déjà extrêmement bien doté. Ça, c'est un autre niveau de la modernisation. Enfin, la modernisation.
D'accord,
il y a d'autres modernisations.
Oui.
En deux mots,
allez-y.
Les infrastructures.
Les machineries. Ça fait partie
Ça fait partie. Nous verrons comment. Mais ce qui est plus important, c'est la profession. Moderniser la profession à travers les coopératives, les interprofessions qui doivent être des lieux de régulation et non pas d'administration, c'est-à-dire libre à se fédérer. Mmh. Et enfin, un accompagnement assurantiel et réassurantiel pour couvrir un certain nombre de risques qui ne sont pas couverts aujourd'hui par les assurances, et réassurantiel parce que face au changement climatique, nous avons un besoin de nous réassurer sur les marchés internationaux. Mmh. L'ensemble de ces problématiques constitue une modernisation du secteur agricole.
D'accord. Eh ben, merci pour l'explication. Je me tourne vers vous, Madame Yasmina Belhadj. Alors, une modernisation de l'agriculture, est-ce que ça se pratique au niveau de votre ferme? Alors, on rappelle le nom de la ferme?
Mazra'at al-Firdaws.
Mazra'at al-Firdaws. Alors, qu'est-ce que vous produisez et est-ce que ça vous parle, ce concept de moderniser l'agriculture?
Oui, exactement, exactement. Parce que justement, à Mazra'at al-Firdaws, on a essayé plusieurs choses que d'habitude ne poussent pas en plein désert. On a essayé la fraise, l'artichaut, le chou-fleur, les haricots verts. Et ça a donné des très, très bons résultats. On essaye bien sûr de suivre le climat. On plante surtout en hiver, bien sûr. Et ça me parle beaucoup, ce qu'il a dit. C'est vraiment... C'est tout ce qu'on a besoin, vraiment, pour l'agriculture.
Depuis 20 ans, cette expérience d'agricultrice, vous et votre mari, votre famille, comment vous la voyez? Alors, vous avez réalisé donc des prouesses dans un endroit où c'est quand même... Vous disiez, il était désert, hein. Vous avez rendu de cette ferme.
Exactement, il était vraiment désertique. Que la première fois que mon mari m'a amené sur le terrain, j'étais très très fâchée. On n'avait pas de route, pas d'eau, pas d'électricité.
Vous imaginez?
Absolument rien. Je lui ai dit, t'as fait une catastrophe, on est loin de la route.
Comment tiens?
Exactement. Il m'a dit, s'il te plaît, un peu de courage et ça va devenir un paradis. Et c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. On a commencé, on a emprunté l'eau à un voisin. On avait ni puits, ni lumière. Et après, on a appris sur le tas. Bon, mon père était agriculteur.
Ma grand-mère aussi.
Après. Et j'ai appris sur le tas. J'essayais de...
Est-ce que vous perpétuer les mêmes façons de d'agriculture que vos
non, papa. on s'adapte que comme maintenant qu'il y a vraiment des grandes chaleurs, on essaie de protéger nos arbres fruitiers, on plante taf suite autour des arbres dès maintenant, on le fait maintenant parce que taf suite c'est une herbe qui fait 2 mètres de haut, ça nous fait ça un peu d'ombre sur nos arbres et on apprend sur le tas. Et qu'est-ce qui est très bien dans la ferme, c'est que tous les jours on a des expériences réussies. Un jour, je repiquais du henné. Mon mari a eu un coup de fil, on devait rentrer. J'ai pris mes boutures, je les ai mis dans l'eau pour pas qu'il meure.
Oui, pour qu'il ne meure pas.
On est parti faire ce qu'on devait faire. Après 3 jours, je reviens et j'ai trouvé mes boutures qu'ils avaient complètement pris et commencé. Et maintenant, je mets toujours mes boutures dans l'eau avant de les planter.
Avant de les planter.
Ça facilite beaucoup la
tâche. Qu'est-ce que vous pensez des petites expériences, on va dire? C'est une petite ferme, hein. Monsieur Brahim Zitouni, en tant qu'expert agroéconomiste, ça peut être un exemple aussi de, on va dire, de moderniser l'agriculture, une façon de pratiquer autrement.
Alors, vous avez absolument raison, madame, ce sont les petites rivières, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières.
Très juste.
Et donc, nous avons un profil sociologique de manière générale de notre paysannerie qui a des terrains de moins de 10 hectares. Et en réalité, ça constitue 80-85% de notre population agricole. Et donc, c'est bien les grandes exploitations et il faut les encourager. Nous n'avons aucun problème avec cela. Par contre, il faut aussi encourager ce qui fait la force de frappe de notre agriculture. Et la force de frappe de notre agriculture, c'est la petite paysannerie qui a besoin de beaucoup plus de soutien que la grosse agriculture qui, elle, a de l'argent. Et pourtant, l'argent va prioritairement à la grosse agriculture et pas à la petite agriculture. Donc, il y a là un déséquilibre qui doit nous interroger et l'État, régulateur, doit absolument penser à des dispositifs de soutien qui soient performants et décorrélés de la production. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le système de subvention est lié au stock. Prenons un exemple. On importe du blé. À partir du moment où ce blé est dans un silo du port à l'OIC, la subvention commence à rouler. Alors que, de mon point de vue, il faut décorréler la subvention stock, mais la réaliser au niveau du flux. C'est-à-dire quand il y a une vente d'un produit transformé, alors on subventionne une transaction commerciale et non pas un stock, et du coup on rend transparent le marché même si on est dans un cadre de la subvention. Donc il y a des progrès à faire pour que nous rendions notre agriculture subventionnée et elle a besoin de subventions, mais elle a besoin de subventions dans un mécanisme de la régulation. Et non pas dans un mécanisme de l'administration.
Oui, c'est très juste.
Et ça, c'est quand même des... on parlait de modernisation de l'agriculture.
Oui, oui.
C'est un des points de modernisation de l'agriculture.
Alors justement, quelles sont les réformes, selon vous, M. Brahim Zitouni, qu'on peut envisager pour parler de moderniser l'agriculture, que ce soit en matière de gestion du risque agricole, d'organiser le monde agricole et de subventions, comme vous venez de le dire?
Alors,
vous en savez... essayant de résumer les idées.
Oui,
vos
oui,
idées,
parce que
voilà.
L'agriculture est transversale, ouais. Et donc il y a beaucoup de choses à dire. Alors, quelques petites remarques. Mmh. La loi fondamentale, puisqu'on est en train de discuter beaucoup d'avant-projets de loi, vous savez qu'il y a des avant-projets de loi qui sont en train d'être discutés pour dépoussiérer, disons, l'environnement législatif agricole.
Du monde agricole.
Voilà.
Vous pouvez réagir, hein, Madame Belhadj.
Première loi d'orientation qui me semble fondamentale, c'est une loi sur la génétique. Il faut protéger notre génétique, en particulier ce que j'appelle la génétique du cercle 1, c'est-à-dire nos plantes et animaux indigènes. Les plantes du cercle 2, qui sont beaucoup plus universelles et beaucoup moins spécifiques à l'Algérie, peuvent être hybridées. Et les plantes du cercle 3, qui sont des espèces spéculatives, celles-là, bien entendu, c'est des marchés niches qui peuvent nous ramener de l'argent. Et donc, il faut travailler sur les trois niveaux. La robustesse à préserver et à améliorer génétiquement, mais dans le cadre de ces caractéristiques phénotypiques, génotypique et chimiotypique. De l'autre côté, en cercle 2, il faut ouvrir à l'hybridation de telle façon que nous améliorions les productivités. Et en cercle 3, être intelligent et aller sur des marchés niches. Par exemple, nous avons un climat formidable au sud, madame, et on peut donc, surtout les fruitiers, avoir un décalage très important.
Exactement,
avec le nord, et pas que le nord d'Alger, également le nord européen.
Exactement.
L'ensemble de ces dispositifs qu'on pourrait mettre constitue une première avancée. Donc, avant tout, une loi sur la génétique.
Oui, deuxième, c'est en réflexion. Ça doit se discuter.
Je ne sais pas si c'est en réflexion.
Oui.
Deuxième chose, ce qui est en réflexion par ailleurs, c'est une loi d'orientation sur l'agriculture. Là, il nous faut réfléchir ce qu'est un paysan, ce qu'est une coopérative, ce qu'est une interprofession, comment on assure, comment on réassure, comment on organise toute l'architecture agricole. Et c'est là où la numérisation, vous me posiez la question tout à l'heure sur la numérisation, peut jouer un rôle. Il faut numériser le flux et non pas le stock. Et dès qu'on numérise le flux, on construit un état agricole de la souveraineté algorithmique. Et là, on passe à autre chose. On passe à une agriculture intelligente dans son infrastructure, dans son architecture, et non pas... Ah, mais il faut le faire. Une agriculture de l'intelligence des outils. Je vais vous donner un exemple et je m'arrête là.
Oui, concret.
Je veux moderniser la circulation automobile. Je peux mettre de l'intelligence embarquée dans une voiture. Est-ce que cela va me régler le problème du trafic? Non. Ma voiture va pouvoir discuter avec les voitures qui sont autour. Elle pourra pas discuter, si moi je suis à Bermondes avec une voiture qui est à Bab El Oued. Mais si je mets une infrastructure intelligente sur l'ensemble du circuit, à ce moment-là, c'est cette infrastructure qui gère les véhicules et non pas l'inverse.
D'accord.
Et donc, il faut pas confondre.
On peut transférer ça dans le monde agricole.
Parfaitement.
Est-ce qu'il y a des problèmes au quotidien au niveau de votre ferme, Madame Yasmina Belhadj?
Oui, bien sûr, il y a des problèmes au quotidien. Déjà, on produit beaucoup. On a du mal à écouler notre marchandise.
C'est la distribution qui pose problème.
C'est pour ça qu'on maintenant fait du séchage. L'excès de production ne va pas...
Ne pas le jeter.
Voilà, exactement.
Oui.
Après, ça suffit pas parce que c'est beaucoup de travail de sécher les légumes. Après, j'ai ouvert le jardin pour avoir des visiteurs. Les gens viennent cueillir eux-mêmes leurs légumes et prendre un thé parce qu'on est en plein désert, c'est vraiment agréable.
Le rituel,
des fois même, ils commandent des repas. Et après, on a fait plus, on a ramené des bénévoles pour nous aider. Et on a même, on livre même quelques clients à domicile.
D'accord. Quand vous parlez de surplus, c'est que, je veux dire, vous avez une production de combien? Là, les fraises. Vous avez eu cette période
les fraises, on a fait ça pour un plaisir. Et les fraises, on a fait ça pour attirer.
Il y a eu une petite
quantité. Pour attirer les gens. Les fraises, c'est la seule chose qu'on vend pas, qu'on offre. Mais par contre, la courgette et la tomate, c'est vraiment, ça donne vraiment, vraiment beaucoup. Et Timimou, on mange pas trop de courgettes. C'est ça la première des sauces.
C'est dommage. Pourtant, c'est un très bon légume, voilà. Pas très calorique.
On a pensé au cessage.
Ok. Qu'est-ce que vous en pensez quand il y a comme ça de l'excès, Monsieur Zitouni? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ça aussi, c'est à tous les échelles. Vous avez vu, au niveau de votre quartier, il y a un petit vendeur de légumes et vous voyez 3-4 caisses comme ça des fruits et légumes qui pourrissent. Qu'est-ce qu'ils font?
Oui, d'abord, madame.
À titre pratique, hein.
Oui, très pratique, mais je réfléchis au niveau d'un État.
Oui.
Madame a besoin d'une infrastructure du froid. L'infrastructure du froid qui permet de conserver. Nous sommes sous-équipés en froid pour l'agriculture.
Exactement.
Quand vous parliez de modernisation de l'agriculture, ça en fait partie.
Bien sûr.
Donc, ça, c'est dans mes projets de faire une chambre froide sur la ferme parce que j'ai beaucoup d'haricots verts. Et en plus, je disais, en très belle période, j'en ai en décembre, vous n'avez pas d'haricots verts, il fait trop froid chez vous. En décembre, on a des haricots verts. J'aimerais faire des salades composées, congelées et ressortir ça au désert quand on a plus de, comme il fait chaud et on n'a pas de légumes.
D'accord.
Ce serait vraiment intéressant.
Donc c'est un outil qui sera important pour la gestion de votre.
Il n'y a pas que le froid. Il y a le froid, c'est une partie de la réponse. Donc équiper notre pays
l'équipement
en froid. Deuxièmement, il y a des méthodes traditionnelles de conservation, en particulier je pense au Matmora, qui peuvent nous aider pourvu qu'on sache les moderniser. C'est-à-dire on reprend le concept, mais on les modernise. Il y a des... Et là, on la modernise avec des technologies, mais des technologies, j'allais dire, peu coûteuses, de telle façon que nous puissions réaliser des stocks qui soient protégés par du CO2, du monoxyde de carbone ou du dioxyde de carbone, comme dans les grands moulins. Sauf que, en réalité, on pourrait parfaitement, je vous donne une petite idée, des figues du figuier de l'Opuntia, du figuier de Barbarie. Eh bien, ces figues, lorsqu'elles sont séchées, toute l'année, elles émettent du dioxyde de carbone. D'accord? Donc, quand on les met dans une matmora de façon protégée, elles nous permettent d'émettre du carbone qui va protéger le blé qui est avec. Par exemple, ça, c'est une petite idée. Ce sont ce genre d'idées qui vont permettre de moderniser la conservation de nos productions. Enfin, il y a une troisième voie pour la modernisation de l'agriculture et pour la conservation, c'est la transformation. Vos fraises en confiture,
En crème glacée. Mais ça a besoin de froid aussi. Hein.
Ouais. Voilà.
Oui, voilà, c'est vrai que les pots de confiture pour tous les fruits qu'on nous met de côté, ou même les légumes. Hein.
Ouais.
Et là, je dois vous dire qu'il y a une aberration. Pourquoi voulez-vous que l'agro-industrie dépende du ministère de l'Industrie? Pourquoi est-ce que l'agro-industrie ne serait pas sous la coupe du ministère de l'Agriculture?
Bien sûr, travaillons directement.
C'est une logique de transformation. Et donc, il faudrait que les entreprises agro-industrielles relèvent non pas du ministère de l'Industrie, ce qui est, de mon point de vue, une hérésie, mais relèvent du ministère de l'Agriculture. Là encore, c'est un élément de la modernisation
de l'agriculture.
Mais au niveau de la ferme de madame... On pourrait imaginer des toutes petites transformations qui permettent de conserver au minimum un an beaucoup de vos productions.
Donc vous réfléchissez à cette petite chambre froide. Qu'est-ce qui pourrait aussi moderniser ou faciliter votre tâche en tant qu'agriculture?
Des petites machines pour récolter le chia.
Rappelons que... Alors vous me disiez, pardon Monsieur Zitouni, que nous produisons du chia.
Oui.
Mais les débuts, on le ramenait.
On le ramenait, puis ça s'est développé beaucoup dans les oasis. En fait, ça s'est beaucoup développé dans les systèmes oasiens. Le chia est très riche en protéines,
bien sûr.
D'accord. Et donc, c'est un excellent...
Une valeur nutritionnelle très intéressante
très
pour le corps.
Absolument. Mais je vous rappelle que sur les 20 acides aminés que nous avons à disposition, 19 sont produits par les végétaux. Un seul acide aminé, une seule vitamine, la B12, est produite uniquement par les viandes. Or, cette B12 est d'une importance capitale pour la croissance.
Bien sûr.
Donc, en réalité, il faut avoir, et on revient à une évidence, un régime équilibré entre viande blanche, rouge, poisson, et bien sûr légumes, céréales, légumineuses et ainsi de suite.
Donc les graines de chia vous posent problème pour
les récolter, ça fait beaucoup de travail après, mais d'un côté c'est bénéfique parce que je fais travailler avec moi des femmes rurales qui m'aident beaucoup.
Ça crée de l'emploi. Ah,
exactement, exactement. Et il y a aussi l'électrification.
Oui.
Qu'on va, Inch'Allah, qui vont ramener maintenant, et les routes. Les routes, ils sont vraiment, vu qu'on est loin, qu'on est.
Vous êtes à 100 km, à 100 km de Timimoun. Comment s'appelle le village où vous
il
êtes?
Il s'appelle Tolmin et oui. Plus exactement Boukzine. Je suis à Boukzine, exactement. C'est qu'est-ce qui fait. Et si on pourrait avoir quelques aides, on aurait aimé faire des bassins pour l'aquaculture, ça ferait une boucle.
Madame, les aides voilà, sur l'aquaculture. Il faut vous rapprocher de la direction générale de la pêche.
Le problème, nous, autant d'agriculteurs, je vais pas aller m'amuser bureau à bureau et laisser mon travail. Je devrais passer un coup de fil. Pourquoi on a numérisé tout ça? J'ai ma carte filaire. J'appelle, je dis voilà, j'ai besoin de ça. Et quand je ramène mon dossier, il va te dire ramène ça et reviens. Et moi, pendant ce temps, il y a mes fleurs qui crament.
Eh oui, je vous comprends. En tout cas, on fait une petite pause. C'est très important de dire, hein, si on veut faciliter la vie à nos agricultrices ou agriculteurs, et on parle de numérisation, ça commence par ça. 10h35, une petite pause. Si vous avez envie d'intervenir, cet espace vous appartient, chères auditrices, auditeurs, le 021 48 15 15. I will always be hoping you will always be holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the dark.
Service public.
Service public.
Service public.
Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien.
Sur différents sujets du quotidien.
Service public.
C'est tout simplement notre métier.
Il est 10h38 minutes. Un petit coucou à Nafissa et Fatiha Belmihoub qui nous écoutent. Nous les saluons de là où elles sont. Et ben, merci beaucoup pour votre message. Et nous continuons notre émission en compagnie de nos invités à 10h38 minutes dans Service Public. On parle de modernisation de l'agriculture avec monsieur Brahim Zitouni, expert agroéconomiste, spécialiste en culture du palmier. De la date, ça ferait une émission à part, hein, je vous dirais, monsieur Brahim Zitouni, parce qu'il y a à dire et à faire. Et nous avons avec nous madame Yasmina Belhedj, elle est agricultrice et qui vient directement de Timimoun et qui a une très belle ferme. D'ailleurs, vous pouvez aller sur sa page Facebook et Instagram. Qui s'occupe de ces deux de vos réseaux, madame Belhedj? Parce que ça aussi, c'est du travail.
Oui, mes
filles. Vos enfants.
Mes filles,
okay.
Bien sûr.
Ben, on les salue. Une question, monsieur Zitouni, quand on parle, la population agricole s'est réduite et nous devons nourrir une population plus grande. C'est un défi. Quels sont les nouveaux acteurs dans le monde agricole? Alors, est-ce que les jeunes formés dans les universités qui reprennent des terres familiales, des retraités qui aspirent à changer de vie, quelle est la mentalité ou quelles sont les motivations? Parce qu'il y a une espèce d'engouement vers l'agriculture.
Oui, il y a...
On voit l'exemple de notre invité qui vient de Timimoun. Même ses filles travaillent avec elle.
Laïberk. Ouais. Maintenant, nous sommes en gros à peut-être 15% de notre population active qui est dans la ruralité. Parmi ces 15-16%, il y a peut-être quelques pourcents, peut-être une dizaine de pourcents qui sont dans l'agriculture. Ça veut dire que nous sommes l'un des rares pays qui a encore beaucoup de paysans. Et c'est une force, c'est pas une faiblesse. Mmh. C'est une force à partir du moment où on sait transformer une composante sociale aussi nombreuse en potentiel, en puissance de la production. Mmh. Or, si nous avons la sociologie pour réaliser des progrès agricoles, nous n'avons pas forcément les infrastructures qui l'éduquent. En particulier, qui pérennise les savoir-faire, les transmettre. Vous savez, l'agriculture, ce n'est pas quelque chose de simple. Ce sont des métiers, aussi bien dans l'élevage que dans l'agriculture, que dans l'arboriculture, que dans la pêche et dans de nombreux autres métiers de l'agriculture. Il y a un vrai savoir-faire. Or, face à ça, nous avons un système éducatif qui est sans lycée technique, par exemple. Oui. Nous n'avons pas de lycée technique pour former des jeunes agriculteurs. Nous avons certes des agronomes.
Des agronomes, voilà, l'université de l'INA. Vous avez des reconversions maintenant. Hein. Vous avez remarqué, beaucoup qui travaillaient dans des entreprises décident de se lancer dans le monde agricole.
Oui,
est-ce que c'est une vague de mode ou est-ce que réellement on a envie de rentrer dans ce monde agricole?
Non, je pense que ce n'est pas une vague de mode. Je pense que c'est quelque chose de structurel. Pourquoi? Parce que face à la mondialisation et face aux valeurs qui changent, on essaye toujours de revenir vers les valeurs les plus fondamentales et les valeurs fondamentales sont liées à la terre. Donc, face à un monde qui change et qu'on ne comprend plus, en particulier face à la numérisation, eh bien, on se demande quel est le sens donné à notre vie et très souvent, beaucoup de gens, aux interrogations multiples, retournent à la terre. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un retour à la terre qu'il y a un retour à des systèmes productifs capables de nourrir la nation. Ce sont deux débats différents.
La petite échelle, peut-être, je dirais.
Je vous disais, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc, comment réaliser l'intégration de ces mouvements-là vers l'agriculture et vers la terre pour les transformer en producteurs d'aliments, en producteurs de souveraineté alimentaire. Et vous voyez, là, c'est là où l'État, mais la paysannerie, les interprofessions,
les coopératives... Je dirais même la notion de paysannerie a changé, M.
Bien entendu. Donc la paysannerie, c'est pas un magma uniforme. Il y a les gros paysans, il y a les petits fellahs, il y a les travailleurs, les khammes. Il y a mille choses qui forment la paysannerie. Et donc, je crois que nous avons un vrai chantier de modernisation de la société, pas rurale, de la société paysanne, la société rurale, l'État la modernise. Elle amène les routes, elle amène l'électricité, elle amène l'eau. Par contre, la modernisation de la paysannerie doit se réaliser à travers quoi? Mais à travers une économie de la connaissance, à travers des échanges d'expériences.
Et des formations, des petites formations.
Exactement, des formations, des incubateurs, et ainsi de suite, qui nous permettraient de mieux accumuler de la culture De la production agricole, mais pas que de la production agricole, oui, de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire, comme par exemple ce que vous me racontiez tout à l'heure, madame, le fait de stabiliser une nouvelle espèce de palmier dattier, oui, ou une nouvelle espèce d'artichaut. Ou voilà de congrès, des choses, comme vous disiez, oui. Voilà des choses que seule la paysannerie s'est inventée, oui, d'accord. Mais il faut après que derrière il y ait les instituts qui prennent le relais, il y ait un enregistrement
De la méthode qu'elle ne part
pas simplement. Simplement de la méthode, mais des gènes qui sont réalisés, les stabiliser, les conserver. Et là, on revient à une banque de semences, et ainsi de suite. Voilà. Donc, l'agriculture est une activité de la complexité et de la transversalité. Ce qui nous manque, c'est ça. Et il nous faut, grâce à une infrastructure algorithmique, non pas sur les machines, mais sur l'architecture même de l'organisation agricole, faire avancer notre agriculture, et je crois que c'est le chantier qui est ouvert par le ministère.
Ah oui, c'est vous-même, madame Belhadj, vous avez appris, vous avez vu votre grand-mère, votre père, mais est-ce que c'est resté dans votre tête, ou vous avez noté, par exemple, comment, à quel moment il faut planter, à quel moment il faut arroser? Comment vous avez appris?
Maintenant, avec mon expérience, avec le climat qui a changé, c'est plus possible de faire comme avant. Parce que des fois, il fait chaud comme pas possible, et des fois, il fait froid comme pas possible. Alors, on essaye de planter presque tous les mois. Et après, logiquement, celle qui se trouvera dans la bonne période, voilà, elle poussera. Mais un petit mot, il y a les jeunes de l'école supérieure d'Adrar, d'agronomie, qui viennent faire la pratique chez moi et qui sont émerveillés. Il y en a qui sont.
Alors, qu'est-ce que vous pensez? Ils sont, leur enseignement leur sert ou pas?
Et leur sert, et surtout comme ils voient le concret sur le terrain. Je discute. Il y en a qui étaient venus à l'école parce que l'école, c'est bien. C'est mieux de faire
la pratique, bien
voilà,
sûr.
Non, mais l'école, c'est mieux qu'un diplôme, t'as jamais rien. Mais comme ils me voient avec ma ferme et tout ça, c'est tout le monde qui me demande, est-ce que je peux faire comme toi? Ben, je lui dis, c'est la preuve. C'est la preuve. Et quand ils mangent quelque chose dans le jardin, je vous dis pas. Il y en a plein qui m'ont demandé comment j'ai commencé, comment je fais. Ils ont tous pris mon numéro et on parle tout le temps, on s'échange tout le temps. Mais vraiment.
Et vous vouliez me dire, ou vous avez dit hors antenne, que vous voulez préciser, Yasmina Belhadj, que vous êtes dyslexique, vous m'avez dit.
Exactement.
Et que vous n'avez pas été très loin dans des études, mais que l'agriculture vous a appris toute seule à travailler, à reconnaître
exactement
les plantes, leurs espèces.
Exactement. Pas que ça, mais ça m'a permis de vivre et de pas prendre un coin et de pleurer sur mon sort. Ça m'a permis de connaître du monde, de sortir. Je suis partie même en France grâce à mon jardin. Mais vraiment, c'est pour dire que c'est possible. Si on est handicapé, on est handicapé dans la tête. Mais tant qu'on respire et qu'on peut bouger et qu'on a de l'espoir, on peut faire quelque chose.
Quel est votre volume de travail pour votre ferme?
Oh, ça dépend. En hiver, des fois, c'est de 8 à 8. Et en été, on commence à 5 heures du matin. On revient à midi, 1 heure. Ça dépend des jours, qu'est-ce qu'on a à faire. Et on reprend à 6 heures et on termine ma slat l'achat. Mais je vais vous raconter un petit truc. Quand je termine en été et j'y vais à la voiture, j'ouvre la porte et il y a le chalumeau qui me frappe. Je me dis, qu'est-ce que je fais ici?
Parce que ça tape, il fait très chaud.
Parce qu'il fait très chaud.
D'ailleurs, j'allais vous dire, est-ce que vous regardez la météo avant de décider demain qu'est-ce que vous allez faire dans votre ferme?
Non, s'il y a des trucs à récolter, il faut les récolter. Je vais pas attendre qu'il fasse bon pour récolter.
D'accord, oui.
Je dois le faire parce que sinon c'est perdu.
C'est
Et dès que je rentre à la maison, une petite sieste dans le climatiseur à 6h, les enfants, c'est l'heure du jardin, allez, les veuves.
C'est un volume horaire, c'est un travail périlleux. C'est pour ça que des fois je me dis, est-ce que les jeunes vont vers l'agriculture? Est-ce qu'ils ont envie de faire ça dans leur formation?
D'abord, je pense que ce n'est pas un hasard si l'agriculteur est philosophe. Et ce n'est pas un hasard si la philosophie moderne est née en Grèce, dans une société agraire. Et lorsque madame disait « ça m'a apporté dans ma vie », ça veut tout simplement dire que l'agriculteur est un grand philosophe. Ça ne veut pas dire qu'il fait de la philosophie, non.
Il la pratique.
Mais c'est l'humilité du philosophe qui parle face à la nature. Et la nature, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire des vents chauds, qui ne sont pas assurées, madame. Ce sont des fortes chaleurs qui ne rentrent pas dans les critères bien de l'assurance.
Sûr. Justement, il y a deux ans, on a eu toute l'année, il y a eu du vent et il y a eu des vents chauds, des dégâts incroyables.
Oh là là.
Incroyables sur les dates. Hein.
Oui.
Il y a eu Bouffaloa qui s'est bien plu, il faisait très chaud. Eh ben, j'ai frappé aux portes, j'ai pris des photos, j'ai envoyé des photos partout. Eh ben, dit oui, vous allez être remboursé, tout ça, mais après, il n'y a rien.
C'est ça le problème qui se pose. Est-ce qu'on réfléchira
On a des animaux et que les dates, ils sont partis aux animaux.
Mais oui.
Ça n'a pas été tout perdu.
Face à...
Mais les gens, on les a fait nourrir, ces animaux.
Voilà.
Voilà. Oui, monsieur Zitouni.
Face à...
C'est... Quand il y a des dégâts, la nature maintenant peut
Face à des conditions difficiles. Oui. Timimoun n'est pas forcément le nord du pays. Yani, pour faire de la culture à Timimoun, en dehors des systèmes oisiens, c'est extrêmement difficile. Il y a un principe de base, c'est la diversification.
Oui.
La diversification est se concentrer sur des plantes et des animaux résilients.
Oui.
Qui peuvent supporter.
Même les animaux doivent être résilients.
Mais bien sûr, parce qu'ils le sont naturellement.
Ouais,
je veux dire, un dromadaire, une autruche,
un
ovin de la race de Maine, sont des espèces particulièrement résilientes et particulièrement adaptées. Et je ne vois pas pourquoi on ne regarderait pas la nature qu'il y a autour de nous à Timimoun. Le jujubier, par exemple, qui est un fruit avec... un taux de vitamine C incroyable. Pourquoi est-ce qu'on ne regarderait pas les balanites qui nous permettent de produire de l'huile dans dans des conditions qui sont des conditions difficiles. Et donc il faut aussi apprendre à regarder la nature et à s'adapter avec la nature et ne pas importer forcément des schémas d'agriculture soi-disant moderne, mais qui sont en réalité...
Qui ne s'adaptent pas à...
Non, qui sont en réalité occidentales. C'est pas la modernité dont on est en train de discuter, c'est de l'occidentalité.
Est-ce que le CIPSA, donc Filaha Africa Food, donc un des plus grands salons professionnels dédiés à l'agriculture, l'élevage et l'agroéquipement, qui démarrera demain, monsieur Zitouni, des débats autour des questions qui touchent l'agriculture, est-ce que vous pouvez nous donner deux, trois, parce qu'il y a 850 exposants.
Oui, absolument.
C'est un salon important.
Vous avez raison, madame, c'est le salon un des plus importants d'Afrique. C'est 850 exposants, c'est plus de 40 000 visiteurs professionnels. Ce sont pratiquement une quarantaine de nations qui viennent exposer. Cette année, nous avons la Mauritanie et le Niger comme pays d'honneur.
D'ailleurs,
nous
vous parlez de la coopération régionale pour renforcer la sécurité alimentaire, monsieur Zitouni.
Absolument. Nous avons un autre marque
qui est
l'Égypte.
Oui.
Et pourquoi le Niger et la Mauritanie?
Oui.
Parce qu'ils sont dans notre continuum hydrogéologique. Et en conséquence de quoi, vu leur pression démographique à eux, vu notre cinétique démographique, leurs problèmes de demain sont...
Des similitudes avec nos problèmes à nous.
Nos problèmes aujourd'hui. Oui. Parce que si nous n'arrivons pas à bien réfléchir la question alimentaire dans un cadre régional et pas simplement dans un cadre local, demain on aura des surprises. Donc le CIPSA... Et les forums qui sont organisés avec une orientation élevage cette année pour répondre aux préoccupations de la puissance publique, mais aussi pour répondre à un certain nombre de débats qui agitent la scène internationale. On voudrait nous faire croire que l'élevage est un producteur de carbone et donc qu'il en faudrait moins. Alors que la B12, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est quand même la vitamine qui nous permet la croissance. Donc à tous ces débats-là, il faut répondre sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan législatif, mais aussi sur le plan pratique. Et le CIPSA est le lieu de rencontre de l'ensemble des métiers de l'agriculture, c'est aussi une rencontre de marché, et enfin, c'est une rencontre d'intelligence active autour des questions agricoles.
Est-ce qu'il y a des conférences qu'il ne faudrait peut-être pas rater, monsieur Brahim Zitouni?
Oui, bien sûr.
Pour les spécialistes qui sont à l'écoute, à 10h52, presque la fin de l'émission.
Oui, alors, il y a des forums à Dar el Jezer, des forums qui sont articulés
c'est au niveau
autour,
de la SAFEX.
Absolument, du bovin, de l'ovin, de la production laitière, qui sont également, cette année, particulièrement orienté vers la question des protéines, aussi bien animales que végétales. Nous aurons des débats intéressants pour voir comment on peut assurer un socle protéinique en Algérie, parce que c'est ça le débat fondamental de l'agriculture. Et qui dit socle protéinique veut dire convergence des filières animales et végétales produire suffisamment de fourrage pour produire suffisamment d'animaux, et ces animaux doivent opérer les fourrages. Ce que je veux dire par là, c'est que la sélection animale est très importante parce qu'elle a un impact sur et les quantités et les qualités de fourrage que nous allons consommer. Donc tout ça doit être réfléchi ensemble, et c'est le lieu au niveau des forums
où, il y aura
où
des
cette
débats.
Réflexion se déroule.
Avec des experts, j'imagine. Mais un dernier mot, et après c'est Madame Belhadj qui va clôturer l'émission. Monsieur Brahim Zitouni, en tant qu'expert agro-économiste, est-ce que elle se porte bien, notre agriculture?
Notre paysannerie se porte bien. La paysannerie algérienne est inventive. Elle est déterminée. Elle est résiliente. Elle ressemble à l'animal et au végétal qu'elle a produit. Mais cette paysannerie de la résilience doit également se matérialiser, opérationnaliser l'ensemble,
mieux s'organiser,
l'ensemble de ces progressions dans une mouture juridico-politique qui lui soit favorable. Et cela ne peut pas se faire sans organisation professionnelle libre et autorégulée, d'une part, et sans encadrement intelligent de la subvention, non pas au stock, mais à la subvention au flux, encadrée par un système assurantiel qui puisse lui permettre de dérisquer son activité.
En parlant d'assurance, on fera une autre émission là-dessus, hein, M. Brahim Zitouni, parce qu'il y a vraiment à dire pour nos chers agriculteurs et agricultrices. Un mot de la fin, Yasmina Tit Belhadj, une agricultrice. Comment vous vous projetez? Est-ce que vous avez envie, j'imagine, de continuer?
Bien sûr,
c'est une ferme que vous portez.
Bien sûr, j'ai envie de continuer et d'agrandir. Ajouter les bassins pour les poissons, les autruches, pourquoi pas, ce serait une belle chose. J'aimerais vraiment que ce soit une ferme complète, et pourquoi pas faire des petits trucs pour faire de l'alcool de date et du vinaigre et tout ça. Ce sera pour récolter tous les déchets du palmier. Je voudrais dire un grand merci à vous,
merci
de m'avoir invité, monsieur. C'était vraiment un plaisir de vous.
Et j'espère que vous assisterez la prochaine fois pour la 25e édition du CIPSA.
Inch'Allah.
Parce que vous êtes la bienvenue. Et je peux vous dire que si vous voulez venir au CIPSA l'année prochaine, parce que je sais que vous êtes occupé cette année, on vous réservera un petit espace à vous et de façon gratuite. Donc venez, vous êtes la bienvenue.
Avec plaisir. Alors je m'inscris dès maintenant.
Oui.
Je remercie bien sûr mon mari, mes enfants et tous ceux qui m'ont aidé, surtout l'école supérieure d'Adrar et Tourba.
D'accord. Oui, on salue tous nos amis de Torba. Voilà, ils sont fidèles et je sais qu'ils écoutent l'émission. Je vous souhaite encore beaucoup de succès, Yasmina Belhadj. Voilà, c'est très bien. Et allez-y sur sa page Instagram. C'est vrai que nous, ceux du Nord, on n'arriverait pas à goûter vos produits, mais bon.
L'année prochaine,
voilà. Inchallah. Ceux qui arrivent du côté de Timimoun et qu'ils passent, allez-y, prenez ces produits. Allez, on va donner le terme. C'est peut-être bio. Et vous allez voir que c'est de qualité.
Exactement.
Merci à vous, monsieur Brahim Zitouni, d'avoir été avec nous. Bonne édition pour CIPSA Filaha.
Merci.
Ça se passera demain au niveau de la SAFEX. Merci à Mohamed Toualbi qui a assuré le direct. Toujours un plaisir de vous retrouver. On se dit à demain, même heure, même station. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de revoir ou de réécouter l'émission, allez-y sur YouTube. Bienvenue à chaque fois.
خايف غير قلب الحبة وغانا ما كين شاري دار بعدياني في سنة وخوا في حربة محزمة سيفي قطعان في لساني راني ساكن براجي هي الفايدة عشقي لي يا سما أجي تزهى وتفاجي ولا تعاد زيدي لي نجمة راني ساكن براجي هي الفايدة عشقي لي يا سما أجي تزهى وتفاجي ولا تعاهد زيدي لي نجمة اللي نهوى الرايقة غير هي اللي تحلالي ورا عمي ليها غير يقوى ولا يقى في قلبي وانا يا مالي معها عايش في خلوة وصدقة من سسطرة للرنفاني وخلي اللي بغى يتنوى بالحرقة يحليلو داك البوهالي راني ساكن البراجي هي الفايدة عشقي لي يا سما أجي تزهى وتفاجي ولا تعادى زيدي لي نجمة راني ساكن البراجي هي الفايدة عشقي لي يا سما أجي تزهى وتفاجي ولا تعادى زيدي لي نجمة المقام والخصلة صافية اتحاد الشهداء غير انتي ولا لا لا يا غالية والرجلة فينا عادة تقوى في طبعتها الآلة المخاوية بلوانك تحلى القلب.